Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Dans 4 heures, on saura, vous saurez quand, pour qui et comment s'appliquera cette fameuse réforme des retraites qui suscite tant d'inquiétude et de colère. Édouard Philippe s'exprime à midi. Qu'en attendent les Français que vous avez croisés à Bordeaux, Philippe de Maria? Vous êtes au marché des Capucins.
Oui, des salariés Lefto se pressent depuis 3-4 heures du matin, des vendeurs, des livreurs, des agents de propreté qui s'activent sous les décorations de Noël. Au mot réforme des retraites, beaucoup lèvent les yeux au ciel. Les moins de 40 ans craignent carrément de ne pas avoir de pension digne de ce nom. Les plus de 40 ans, eux, évoquent la nécessité d'une épargne pour compléter leur retraite. Véronique, elle rejoint son lycée de très bonne heure. Elle est agent administratif.
De toute façon, c'est du nouveau, donc ça inquiète toujours. Après, vu le système, il faut malheureusement le réformer. Parce que de toute façon, on n'aura pas assez d'argent pour payer tout le monde. Donc, on est obligé de faire quelque chose.
Vous avez quel âge, c'est pas un histoire ?
Alors, moi, je suis pas dans la... A priori, je vais passer à 2 ans près, j'ai 48 ans. Donc, ça devrait passer sur l'ancien régime. Ils disaient que c'était 73. Alors, je sais pas, je vais attendre l'annonce d'aujourd'hui. Dernière nouvelle, c'était à partir des personnes qui étaient nées en 73. C'est ce que j'ai entendu.
Fin du suspense pour Véronique et l'ensemble des Français aux alentours de midi avec l'intervention du Premier ministre.
Merci Philippe de Maria en direct de Bordeaux. Le Premier ministre effectivement prendra la parole au lendemain d'une mobilisation demi-teinte. Les manifestants étaient 2 fois moins nombreux que jeudi dernier. Anaïs Bouissot, on a entendu donc Véronique, elle a 48 ans, elle est née en 1971. Elle n'est pas sûre d'être concernée par cette réforme. Est-ce qu'on peut déjà lui répondre ce matin ?
A priori, non. On va rester prudent. Hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que Véronique devrait faire partie des derniers qui restent au régime actuel. Tous ceux qui sont soit déjà à la retraite, soit en fin de carrière, à moins de 15 ans de partir à la retraite, ceux-là, ils devraient être épargnés. Ça, c'est pour ceux qui sont en fin de carrière, donc. Mais à l'inverse, à l'autre bout de la chaîne, il y a les plus jeunes. Pour eux, ceux qui terminent leurs études maintenant et qui vont commencer à travailler avant la fin du quinquennat, eh bien, ce sont ceux-là qui devraient en fait être les premiers concernés. Eux, ils pourraient très bien commencer directement à accumuler des points pour leur retraite. Et puis enfin, il reste tous ceux qui sont entre les deux, en milieu de carrière. Eux, ils auront un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau régime. Quels droits auront-ils pour la retraite ? Comment vont se cumuler les deux ? Cette question des transitions reste encore floue.
Et je dois vous poser une autre question que beaucoup de nos auditeurs se posent. À quel âge pourra-t-on partir à la retraite avec cette réforme ?
Oui, alors rien que sur cette question-là, il y aura 2 réponses à apporter. Ah. Vous aurez d'abord l'âge minimum pour avoir le droit de partir à la retraite. Cet âge devrait rester fixe, 62 ans, comme l'avait premier Emmanuel Macron. Mais la deuxième chose, au-delà de l'âge minimum, il y aura l'âge souhaité de départ, l'âge auquel vous serez incité à partir. Jean-Paul Delevoye fixe cet âge à 64 ans. Ce qui voudrait dire qu'avant 64 ans, partir resterait possible, mais avec une pension plus faible, à vos risques et périls. Et après 64 ans, vous partiriez avec une plus grosse pension. C'est ce qu'on appelle l'âge pivot. Mais cette solution est loin de faire l'unanimité.
Merci pour toutes ces explications, Anaïs Bouissot. L'exécutif va donc dévoiler son jeu au lendemain de défilé. On l'a dit qu'ils n'auront pas fait le plein. L'intersyndicale a finalement refusé d'appeler à une nouvelle journée de manifestation dès demain. Elle mise plutôt sur des actions locales. La prochaine journée de grève interprofessionnelle est annoncée pour mardi prochain. Côté perturbation, un TGV sur 4 prévu à la SNCF et un Transilien sur 5. À Paris, on est toujours à 10 lignes de métro fermées. Et même cause, même conséquence, circulation toujours difficile ce matin en Ile-de-France sur tous les grands axes autour de Paris. Près de 440 kilomètres de bouchons cumulés. La région, c'est une info RTL qu'on vous dévoile ce matin, affrète 220 cars et bus pour ceux qui viennent travailler de la grande banlieue. Service gratuit avec la carte Navigo.
RTL matin 8h04.
Et de son côté, la SNCF met en place les trains garantis.
Oui, les trains affichés partiront. Pas de mauvaise surprise pour les clients. Rachel Picard est directrice générale de la SNCF.
Les trains garantis, c'est des trains qui sont affichés, disponibles à la vente et qui sont garantis de circuler. Donc c'est des trains qui sont affichés sur l'assistant SNCF, sur Oui SNCF, sur tous les canaux de vente jusqu'à la fin de la semaine. Comme ça, les clients ils pourront s'organiser pour leur fin de semaine. Et puis pour tous ceux qui veulent partir en week-end, ils pourront choisir, sélectionner leur train.
Rachel Picard, directrice générale de Voyage SNCF. Elle était au micro RTL d'Éric Vanier. On l'entend, donc on s'organise au 7e jour de grève dans les transports, mais tout cela commence à peser sur l'économie du pays. Les détails en chiffres dans un instant, mais écoutez d'abord le désarroi de Carole Château. C'est la présidente de l'association des commerçants de Carré Nord Presqu'île à Lyon. Elle est avec Frédéric Perruche.
On a déjà été impacté par les gilets jaunes et donc la situation est catastrophique. Les commerçants meurent malheureusement en silence et de toute façon, s'il n'y a pas de volonté politique, c'est la chronique d'une mort annoncée quoi qu'il en soit pour le petit commerce et le commerce indépendant de centre-ville.
Là, si ça dure, vous craignez quoi dans les jours qui viennent ?
Eh bien, de nouveau des commerçants qui ne pérennisent pas leur activité économique sur ce mois de décembre qui est capital et de nouveau une vague de fermeture maintenant sur janvier et février.
Et donc je me tourne vers vous, Martial Liu, les commerçants sont déjà les grands perdants de ce mouvement social.
Oui, surtout qu'ils subissent un deuxième mois de décembre au ralenti après le mouvement des Gilets jaunes l'an dernier, on vient de l'entendre. On a donc des acteurs économiques déjà fragilisés, d'autant qu'une partie des ventes qui ne se feront pas en décembre pour les fêtes ne se reporteront pas sur le mois de janvier. C'est vraiment la particularité de ces mouvements en décembre. L'UMIH, qui représente les hôteliers, enregistre une baisse de 50% de ses réservations sur le week-end dernier. Les commerçants de centre-ville ont vu leur vente chuter de 30% par rapport à un mois normal au cours de ces derniers jours. Les commerces de centre-ville donc impactés, on l'a entendu. Et puis j'ai regardé les volumes de transactions cartes bancaires sur le dernier week-end. Il y a un coup de mou, évident, puisqu'on est grosso modo au même niveau que l'année dernière en plein mouvement des Gilets jaunes. Là aussi, on a enregistré 6 millions de transactions de moins entre le Black Friday avant la grève, donc, et le week-end dernier.
Alors, il y a les perdants, mais il y a aussi les gagnants.
Bah oui, alors du côté des transports alternatifs, on se frotte les mains. Je donne quand même les chiffres pour la SNCF et la RATP, parce que là, l'impact de cette grève, il est violent. La SNCF perd 20 millions par jour, la RATP perd 3 millions, et du coup, on se rabat sur les taxis, qui enregistrent une hausse de 40% de leurs courses en moyenne depuis une semaine, ou sur les VTC, qui, eux, ont multiplié le prix de leurs courses à peu près par 2. Et puis, il y a les gardes d'enfants aussi, quand la crèche ou l'école est fermée, la plus grosse plateforme de nounous, Youpies, en France, a multiplié par 3, plus 207% son chiffre d'affaires hier.
Plus de 40% en plus pour les courses de taxi. Merci. Enquête signée Martial Liu pour RTL.
Et à 8h20, notre débat avec François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, et Denis Gravouille, qui est négociateur retraite à la CGT. Que doit faire aujourd'hui le gouvernement ? Reculer ou avancer ? Leur réponse à 8h20. Dans un instant, un prisonnier au tribunal. Le procès en appel de Patrick Balkany commence ce matin.
RTL matin 8h07.
Le CIC est présent.
RTL matin.
RTL 8h09, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Et c'est donc aujourd'hui le coup d'envoi du procès en appel de Patrick et Isabelle Balkany.
Le couple est rejugé ce matin pour fraude fiscale et peu importe la suite, on le sait, le maire de Levallois a décidé d'être candidat à sa propre succession, prisonnier ou pas. Et ça commence à grincer dans sa ville. Une adjointe, Sylvie Ramon, vient de claquer la porte.
Je pense que Patrick Balkany a été un très grand maire. Mais aujourd'hui, malheureusement, il est incarcéré. Je veux qu'on puisse sortir par le haut de tout cela, d'avoir l'attitude de « après moi le déluge ». Je ne peux pas l'accepter. C'est pas serein. Et puis en plus, on donne aucune perspective aux Levalloisiens. Moi, ils me le disent « mais qu'est-ce que vous faites ? Que faites-vous ? Qui va être maire ? Qu'est-ce qui va se passer ?»
Sylvie Ramon, qui était jusqu'à hier adjointe aux affaires générales de Levallois et membre de l'équipe Balkany depuis 1983, elle répondait à Alice Moreno.
Les Britanniques, eux, s'apprêtent à voter pour la troisième fois en quatre ans.
Législative anticipée demain à la demande du Premier ministre Boris Johnson, qui veut s'assurer une majorité confortable pour mener à bien le Brexit sur le thème « Finissons-en, get it done » en anglais. C'est le slogan des conservateurs qui doivent, pour l'emporter, chasser sur les terres populaires des travaillistes, comme ici à Broughton, à la frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles. C'est vraiment là qu'un Brexit dur pourrait avoir de fâcheuses conséquences. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Airbus y a son usine. On y fabrique notamment les ailes de l'A380. Ce sont des milliers d'emplois qui risquent de disparaître. RTL en immersion, Sinamir.
À Broughton, l'immense hangar de 40 mètres de haut de l'A380 est une boîte de conserve immanquable à travers champs. Gigantesque, au point qu'à la relève sur le parking, les premiers ouvriers qui passent les tourniquets courent littéralement, se jettent dans leur voiture pour éviter les bouchons à la sortie de l'usine.
My next door neighbor works at Airbus. Mon voisin à côté bosse pour Airbus, celui d'en face bosse pour Airbus. À deux pâtés de maison, il bosse aussi pour Airbus. Il y a 6000 ouvriers qui travaillent ici. Airbus nous amène du boulot et du boulot bien payé.
Des emplois officiellement menacés avec un Brexit dur. Pourtant ici, comme Mike et ses 27 ans d'atelier, tout le monde parle de bluff. Impossible que cet investissement géant quitte comme ça ce bastion historiquement travailliste et ouvrier. On dit même dans un trait d'humour qu'un âne serait élu ici avec l'étiquette du Labour. Et pourtant, depuis le référendum, le vent tourne chez ces ouvriers.
Ils ont perdu la confiance des gens. Ils disent quelque chose, en font une autre. Si seulement ils avaient un autre chef que Corbyn, je n'arrive pas à lui faire confiance. Il disait vouloir quitter l'UE, aujourd'hui il veut rester. Au final, à nous de bien bosser et de garder Airbus ici.
Un électorat à la base travailliste donc, blanc, populaire, mais qui a déjà voté pour quitter l'Europe il y a 2 ans et pourrait franchir le second pas.
Boris Johnson pense à la classe ouvrière. Il veut améliorer les salaires, le niveau de vie, baisser l'impôt sur le revenu. Je verrai ce soir. J'ai toujours voté Labour, mais là, j'hésite vraiment.
Un doute partagé sur le tarmac de l'A380. Au fil des conversations, il pourrait bien mettre du plomb dans les ailes du Labour dès demain.
RTL en immersion de Sinamir, envoyé spécial en Angleterre.
On en vient à cette fabuleuse histoire d'amour qui aura survécu à l'horreur.
À l'horreur du camp d'Auschwitz, dont on commémorera en janvier la libération, 75 ans, un ancien déporté chantera en l'honneur d'une femme qu'il avait rencontrée dans ce camp. Les deux amants se retrouveront bien des années plus tard, Philippe Corbet.
Oui, il a fallu 72 ans pour que Zippy et David se retrouvent comme ils l'avaient espéré lorsque le Polonais et la Slovaque s'aimaient en secret. Elle travaille alors dans les registres du camp et comme il aime chanter, elle lui apprend des airs en hongrois. Ils promettent de se retrouver à Varsovie. En 44, il est transféré à Dachau, elle à Ravensbrück. Tous les deux s'échappent, émigrent aux États-Unis, se marient. Ils vivent pendant des décennies à 2 heures l'un de l'autre. C'est le fils de David qui retrouve Zippy en 2016. David va la voir, elle est presque sourde et aveugle. Il veut savoir si c'est elle qui l'a sauvée. Elle lève sa main, montre 5 doigts. À 5 reprises, elle a empêché qu'il soit envoyé à la mort. Puis Zippy lui dit qu'elle est allée l'attendre à Varsovie. Il n'est jamais venu. Elle lui avoue qu'elle l'a aimé toute sa vie en silence. Il lui répond que lui aussi. Il prend sa main et lui chante l'air en hongrois qu'elle lui avait appris. C'est la dernière fois qu'ils se sont vus avant la mort de Zippy.
Récit de Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL et sans la moindre transition, le football. Objectif atteint pour Lyon. L'OL s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions à l'issue d'un match où il s'est fait peur de partout contre Leipzig. Toujours en Ligue des Champions ce soir, le PSG, déjà qualifié pour les 8e, reçoit le Galatasaray. Ce sera au Parc des Princes à 21h. Et puis notez que l'Ajax d'Amsterdam et l'Inter Milan sont éliminés.
Tout est dit, c'était le journal de Jérôme Flore.